Mais en fait, ce qui a été dit par Lionel et Emmanuel, c'est en plein dedans aussi. Pascal, il a commencé avec « Vous êtes le temple de Dieu ». On a chanté « Ce qui m'était cher n'a plus de valeur ». Et Pascal a dit plusieurs fois « Dieu, il va habiter confortablement avec nous ». Et le titre de ma prédication, c'est « Suis-je confortable avec Jésus ?» Alors, vous m'arrêtez pas. Comme il y en a beaucoup qui le savent, on a une panne de chauffage à la maison depuis un mois maintenant. On a fêté dans un mois hier. On a fêté en poussant un petit peu les radiateurs. Donc bon, faut pas vous en faire, hein, il n'y a rien de dramatique. On a des radiateurs électriques à bain d'huile et puis bon voilà. Alors certes, on n'a plus 19 degrés comme avant dans la maison, sinon ce serait une ruine. Parce que voilà, on peut pas avec des petits radiateurs comme ça chauffer de la même manière. Donc on est plus à 15, 16, ça dépend. Quand il gèle comme ça, c'est plus compliqué. Mais voilà, au début, on n'avait pas d'eau chaude non plus. C'était pas très confortable, c'était un peu casse-pied. Et là, depuis 10 jours, on a eu la chance d'avoir un cumulus en prêt, et donc d'avoir de l'eau chaude. Et ça transforme la vie en hein, l'eau chaude, c'est magnifique. tout ça, ça m'a fait penser du coup à la notion de confort dans la maison. Et voilà, on a perdu en confort dans la maison. Après, voilà, on n'en meurt pas. Hein. Il y a des gens qui, quand on voit les gens qui vivent dehors, on réfléchit encore plus maintenant. Si on se dit, nous, on a froid 14-15 degrés dehors, c'est pas ça qu'ils ont comme température. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça. Et j'ai réfléchi à ça sous deux angles, en fait. Le premier qui est-ce que moi, je suis confortable avec Jésus dans ma vie? Donc ça, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Et comme c'est parti trop loin dans ma réflexion, j'avais une deuxième partie qui était, est-ce que Jésus et confortablement dans ma vie. Alors Pascal, il a déjà fait une partie là, donc voilà, ça compense ce que je ne pourrais pas dire, mais on verra probablement la suite. Voilà. Et l'histoire des idoles, c'est intéressant parce que les idoles, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent prendre la place de Dieu dans ma vie. Donc on est en plein dedans, en fait. Hein. C'est pour ça que tout se recoupe. Alors c'est vrai que quand on dit est-ce que Jésus il est confortable dans ma vie? Alors on verra, hein, les deux sont liés en fait, que je suis confortable avec lui est confortable avec moi, c'est intrinsèquement lié, donc on en parlera la fois prochaine, mais je sépare en deux parce que bah, dans notre tête c'est plus simple de découper les choses pour y réfléchir, mais les deux sont liés. Et quand on dit est-ce que moi je suis confortable avec Jésus dans ma vie, alors j'ai pensé forcément tout de suite à ce verset, on est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, ben, j'habite avec Jésus, lui avec moi, moi avec lui. Alors, c'est vrai que l'Église, quelque part, c'est un peu aussi la maison de Dieu. Donc, on pourrait penser à dire, est-ce que moi, je suis confortable dans l'Église ici? Bon, après, l'Église, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. Après, on se rassemble. Donc, c'est vrai que Dieu, il est au milieu de nous. Mais j'ai pas voulu m'étaler là-dessus, en fait. Parce que, quelque part, le fait qu'on soit bien dans l'Église ici, qu'on appelle église, bâtiment, enfin, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, en fait. Hein. On peut avoir des types d'églises, quelque part, une espèce de manière de faire, de point de vue doctrinal qui fait qu'on est plus ou moins à l'aise dans une église, ce qui est prêché. Hein, il peut y avoir plein de choses, la manière dont les gens se comportent dans l'église. Il y a des gens qui donnent peut-être plus de place au Saint-Esprit, qui sont plus vivants. Alors nous, des fois, on manque de vivants, hein, ça c'est clair. Mais voilà, il y a des choses qui font qu'on peut se sentir plus ou moins à l'aise dans une église. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Moi, je pense que le plus important, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc, est-ce que je suis confortablement avec Jésus dans ma vie? C'est lié à ma vie, à moi, à mon corps à moi, en fait, enfin, voilà, à ma vie. Est-ce que l'idée que Dieu vienne s'installer avec moi, ça me laisse en paix? Est-ce que je suis totalement d'accord avec ça? Vous allez voir après par la suite, hein, je vais détailler un peu. Est-ce que je suis d'accord à 100% avec ça? Parce que toute l'idée, c'est de dire, est-ce que vraiment je laisse toute la place au Seigneur dans ma vie? Est-ce que je suis bien avec lui ou est-ce que quelque part, bon, je le supporte, mais jusqu'à un certain point, et donc voilà, il y a des limites qu'il ne faut pas qu'il franchisse non plus. Si je fais ça, bah, quand je me dis chrétien, il y a une forme d'hypocrisie parce que je n'appartiens pas à 100% à Jésus, je ne suis pas à 100% avec lui. Alors, qu'est-ce qui rend une maison confortable? On revient à notre question de chauffage. Hein. On peut presque répondre à ça en qu'est-ce qui fait qu'une maison n'est pas confortable aussi? Les deux sont liés, hein, forcément. Une maison confortable, c'est une maison pour moi qui n'est pas faite pour moi. Les conditions ne correspondent pas à ce que j'en attends, on va dire. Alors, je reprends l'exemple de la température. Typiquement, quelqu'un qui attend, je pense à Manu, quelqu'un qui attend 22 degrés dans sa maison parce qu'il aime bien avoir un peu de confort, bah, 19 degrés, c'est frisqué, quoi, c'est juste. Mais nous, bah, on en est à 14-15 à la maison. Donc quand on a 19, bah, en fait, il fait bon. on en est là. Donc, voyez que la question de est-ce que c'est confortable pour moi, elle est liée à mes attentes en fait. Il y a des gens, ils attendent d'une maison qu'elle soit hyper connectée, que j'ai du haut débit, j'ai plein de trucs, de l'informatique, tout ça. Et il y a des gens, bah, c'est le plus simple possible. Et si je peux ne pas avoir d'onde qui me traverse le corps, c'est très bien. Et on peut avoir des tas d'attentes comme ça. Hein. L'ambiance dans la maison aussi. J'aurais tendance à dire que moi, je serais plus pour le silence monacal, tranquille, voilà, on s'entend. Tranquille, on s'entend respirer, quoi. Hein. C'est calme. Ce qu'on vit pas souvent à la maison. Mais bon, c'est pas très compatible avec la présence d'enfants, en fait. Hein. Mais voilà, il y a des gens, ils aiment bien quand il y a de l'ambiance tout le temps, qu'il y a toujours un peu de passage, un peu de discussion, voire un fond musical. Voilà, c'est pareil au travail. Hein. Il y a des gens, ils vont avoir besoin d'un silence complet pour travailler, et d'autres qui auront besoin d'un petit fond musical histoire de se concentrer. Bon, le fond musical, il a tendance à me déconcentrer. Mais bon. Donc, vous voyez que ça dépend de qu'est-ce que j'en attends, en fait. Et du coup, si je reprends ma question de départ, est-ce que je suis confortable avec Jésus dans ma vie? Ça dépend de ce que j'attends de lui, en fait. Si j'attends qu'il m'arrive rien de dramatique, que je sois bien, bien, voilà, tout se passe bien dans ma vie, limite, il me donne bien de quoi vivre, de quoi avoir un petit peu de loisir aussi, hein, tant qu'à faire, bah, je vais être déçu, je vais pas être confortable avec lui. Parce qu'il veut tout, il veut prendre tout, et il nous garantit pas une prospérité matérielle derrière. Ça, c'est une fausse doctrine. Donc, qu'est-ce que j'attends de Jésus? En fait, la réalité, c'est que je devrais attendre de Jésus qu'il me demande tout. Si je suis d'accord avec cette idée-là, bon, bah voilà, je vais être confortable avec lui, j'attends rien, je lui donne tout, et puis lui, il se débrouille avec ma vie. Et là, bah, comme finalement, j'ai pas de réelle attente envers lui, bah, je suis pas déçu non plus. C'est une manière de faire les choses, hein. Alors, ce que je me suis dit aussi en pensant à ses attentes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, dans le chant, c'était ce qui m'était cher n'a plus de valeur. Je l'ai noté parce qu'après, on zappe une fois qu'on est au micro. Notre système de valeurs, il change. Et il change pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous transforme par son esprit et il nous transforme par sa parole. Et au plus je lis sa parole, au plus mes attentes, elles changent, en fait. Je m'aperçois que c'est pas centré sur ma petite vie à moi, mais c'est centré sur lui. Et finalement, je m'aperçois que ce sont pas mes attentes, mais les siennes. Alors, il ne s'agit pas de se mettre une barre comme ça, de dire « Ah, oh, Dieu, il attend ça et ça de moi, et moi, je suis rien. » On sait qu'on n'est rien, en fait. Il faut partir de cette base-là et après se mettre à disposition du Seigneur. Mais voilà, il faut vraiment qu'on travaille sur qu'est-ce qu'on attend du Seigneur dans nos vies pour pas être déçu et pour être bien avec lui. Alors, je vais illustrer mes propos avec une autre image. Après, on va en arriver à des choses bibliques, hein, vous inquiétez pas. On peut être inconfortable dans notre propre corps. Ça paraît peut-être bizarre, mais je suis malheureusement pas complètement débarrassé de mon eczéma. Cet été, j'ai fait une allergie à la crème solaire. Et ça a été la cata parce qu'en 3-4 jours, on se recouvre d'eczéma, on se gratte, on s'arrache. Bon, je ne vous fais pas un schéma, sinon vous n'allez pas manger ce midi. Mais la peau est dans un vilain état et voilà. Et j'ai fait une allergie à un changement de lessive en septembre et un changement de lessive là, il y a une dizaine de jours. Il suffit que la lessive est la même, mais la composition a changé et puis voilà, c'est la catastrophe. Et comme ils n'arrêtent pas de changer leur formule pour faire de mieux en mieux, bah, il y a toujours un risque. Donc, quand c'est comme ça, on se dit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû manger un truc qu'il fallait pas, parce qu'en général c'est plus ça. Hein, c'est, je vais craquer pour du chocolat alors qu'il faut pas, ou voilà, j'ai mangé un truc qui contient un allergène et ça passe pas. Alors on élimine ça, et puis ah mince, ça continue à gratter, puis bah faut un certain nombre de jours avant de se rendre compte que ça fait pas effet. Hein. Donc on se dit mince, j'ai trop caressé le chat. Bon, cet été on était loin des chats, c'était pas leur faute, mais j'ai peut-être trop caressé, puis à force je me gratte, je me touche, bon, c'était pas ça non plus, et à force d'en arriver à enlever les choses une par une, on se retrouve avec la chose qui est problématique. On dit mince, on a changé de lessive il y a 3 semaines, ça se trouve c'était ça. Ça fait combien de temps que je me gratte? 3 semaines, ok, c'est bon, c'est ça. Bon, voilà. Donc, quelque part, on est mal dans notre propre corps parce qu'on se gratte, on n'est pas bien et on ne sait pas parce que, enfin, on peut pas, je sais pas comment dire, on peut pas s'extraire de son propre corps. On est dedans tout le temps et puis bah, quand on n'est pas bien, bah voilà. Alors, c'est pas l'eczéma, c'est pas dramatique, hein, mais il y a un inconfort en fait. Voilà, ça reste dans cette histoire de confort. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être pas confortable dans son corps. On peut être pas confortable à cause des rhumatismes, à cause d'une maladie. Quand on est fiévreux, tout bêtement, hein, on a un rhume, bah, on n'est pas bien. Et on peut pas s'extraire de ça, on est coincé dedans. Mais voilà, bon, le rhume, c'est un petit peu différent, hein. qui me marque avec l'eczéma, c'est qu'en fait, tout ça, c'est à cause de moi. Alors, c'est à cause de moi. Parce que je mange des trucs qu'il faut pas, parce que je touche au chat alors qu'il faut pas, ou voilà, parce que je regarde peut-être pas assez les compositions des trucs que je mets sur ma peau. Mais en tout cas, c'est à cause de moi, parce que je donne un truc à mon corps qu'il supporte pas. Et c'est à cause de moi, parce que c'est mon système immunitaire qui surréagit et qui dit stop, stop à l'envahisseur, je bloque tout et puis je réagis à fond pour être sûr de l'éliminer. Donc l'eczéma, c'est ça, hein, y a un allergène et puis le corps, il surréagit et ça crée les boutons, les plaques et tout ce qui va avec. Donc je me disais, est-ce que des fois, on n'est pas comme ça avec le Seigneur dans nos vies ? C'est-à-dire que, en plus, l'eczéma, c'est un peu vicieux parce qu'on s'en rend pas compte. Je vous dis, des fois, on peut passer une semaine avant de se dire, mince, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Et est-ce qu'avec le Seigneur, on peut avoir ces réactions-là, en fait ? Je sais pas si vous me suivez. On peut réagir d'un seul coup. Là, il y a des trucs que je mange, typiquement le maïs. Si vous voulez me faire une blague, vous me donnez du maïs à manger. Hein. Et puis, dans les 1 heure ou 2, je vais me gratter et c'est parti, quoi. Donc, le maïs, je peux l'identifier très rapidement, je le supporte pas. Il y a plein de trucs qu'on supporte pas comme ça. Hein. Moi, c'est alimentaire, je parle. Hein. Mais il peut y avoir plein d'autres choses. On peut ne pas supporter Jésus et puis on en a des réactions. Ça nous donne des boutons. Il y a des gens comme ça. Hein. On leur parle et puis tout de suite on a un mur devant nous. C'est violent, quoi. Il y en a qui font des chocs anaphylactiques. Bon, et ça se passe pareil avec Jésus. Mais des fois, on pourrait se dire, on est dans l'église, on a un peu de Jésus, ça va. Mais sauf qu'en fait, sur la longueur, on chope des boutons, ça gratte, Jésus, on ne le supporte pas, en fait. Vous voyez où je veux en venir ? C'est une question d'inconfort, ce n'est pas une réaction vraiment brutale, mais avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a des... Ce n'est pas compatible avec nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça le principe du système immunitaire qui réagit. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec lui, c'est un étranger. Donc comme ce n'est pas le corps, tout ce qui n'est pas moi, eh ben, il l'éjecte, il le bat, il s'en débarrasse. C'est aussi le principe du vaccin. On en parle en ce moment. On va montrer au corps, regarde ça, c'est l'étranger, c'est ça. Hop, il s'entraîne. Et puis une fois qu'il est en contact à nouveau avec lui, et ben il sait, ouais, ça c'est l'étranger, je l'ai repéré, hop, et puis je peux l'attaquer plus rapidement. C'est le principe de la greffe aussi. La greffe, quand on... Alors, je n'ai pas été greffé, hein, je parle juste de scientifiquement comment ça marche. Quand on greffe un organe à quelqu'un, on est obligé de lui donner des traitements à vie. Et les traitements anti-rejet, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un traitement pour réduire le système immunitaire, pour éviter qu'il réagisse, qu'il reconnaisse l'organe. Alors, je dis organe, un bras, peu importe l'organe, en fait. Hein. Mais pour éviter qu'il reconnaisse l'organe comme étant étranger, qu'il le batte et qu'il le détruise, en fait. Et donc, la solution, quelque part, alors je sais bien que c'est à double tranchant l'interprétation, mais que ça soit pour l'eczéma ou pour la greffe, la solution... c'est de réduire mon moi, quelque part. C'est de prendre un traitement qui va baisser mes défenses immunitaires et qui fait que je ne vais pas réagir comme ça. Donc, alors je sais bien que on peut le voir comme quelque chose de négatif, hein. ça a des effets assez négatifs dans la santé des gens, ces traitements-là, mais malheureusement, dans ces circonstances-là, on est obligé d'en prendre. Et le but de ça, c'est réduire mon moi pour que je réagisse moins. Et donc, je trouvais l'image intéressante par rapport au Seigneur, finalement. On devrait tous avoir une réaction plus ou moins allergique au Seigneur, parce qu'en fait, on n'est pas compatible avec lui de base. On est incompatible, et donc ça doit nous gratter, ça doit nous démanger. Si ça ne démange pas, il y a un problème aussi, en fait. À un moment donné, ça va forcément ressortir. On va forcément avoir des plaques et se gratter et être pas bien. Je parle parce que c'est ce que je connais bien. Mais la solution à ça, c'est que mon moi, il disparaisse. Parce que s'il n'est plus là, il ne se battra plus contre Jésus, il n'y aura plus cette réaction. Et il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas transformer le moi, essayer de le réduire. Voilà, il n'y a pas d'autre solution que de le faire disparaître complètement. Et ça, c'est ce que Paul dit dans Romains 8, qu'on ira lire après. Bon, pour l'eczéma, c'est la même chose. Hein. Bon, il y a les corticoïdes qui sont des anti-inflammatoires, et maintenant, il y a des traitements... j'ai un traitement qui s'appelle protopique, qui est réduire le système immunitaire juste au niveau de la peau. Comme ça, il n'y a plus de réaction au niveau de la peau. Ça marche plus ou moins bien, hein, mais le principe, c'est ça en tout cas. Alors, ce principe de réaction allergique, on le retrouve aussi dans la Bible. Quand on lit dans Jean 15, alors c'est juste deux versets, il ne tournait pas. « Le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est le verbe « haïr », hein, donc c'est vraiment la réaction bien, bien forte. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc pourquoi il vous hait? Parce que vous n'êtes pas du monde. Voilà, c'est deux natures qui sont juste opposées entre elles. Elles ne peuvent pas se tolérer l'une l'autre. Et donc voilà, le monde rejette ce qui vient de Jésus. C'est inévitable, c'est comme ça. Alors c'est pas Romains 8, c'est Romains 7, enfin 7-8. Donc ça, je vais vous lire, c'est un passage un petit peu plus long, mais je trouve que ça reprend pas mal d'idées là-dessus. Donc, Romains 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc là, on voit, hein, il décrit vraiment les deux, le système spirituel, le système charnel, et il dit voilà, ça lutte, ça se bat, et voilà, c'est compliqué parce qu'il y a un combat entre les deux, parce que les deux se supportent pas. Et verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ça, on est nombreux à l'espérer, hein, la délivrance du corps, le corps qui est tout plein d'eczéma. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et on voit en fait que quand il dit « Misérable que je suis, qui va me délivrer ?» La réponse, il la donne juste après, au chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la solution à ce combat-là, c'est l'esprit. Et l'esprit, il vient et il élimine l'ancienne nature. En fait, notre ancienne nature, c'est toute l'image du baptême, elle meurt. Elle meurt quand on se donne à Jésus. Alors c'est vrai qu'il y a encore des soubresauts, il y a encore des choses qui luttent dans notre corps, mais toute l'idée c'est de laisser la place à l'esprit, et au plus il prendra la place, au moins nous on en aura, et au moins on pourra réagir en fait. Et quand il aura pris toute la place, eh bien, il n'y aura plus cette réaction allergique du tout. Verset 3, « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Je ne sais plus jusqu'où je voulais aller. Si, plus loin là-bas. Pardon. Mais et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Là, on voit bien le contraste encore une fois entre les deux. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Je vous dis, on peut pas faire quelque chose, essayer de trafiquer la chair, de l'améliorer, de faire quelque chose, parce qu'elle ne peut pas supporter Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils sont vraiment clairs ces versets dans Romains. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc la solution, c'est le Saint-Esprit. Et je finis quand même le verset 12 à 14. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc la solution, là, c'est le Saint-Esprit, et c'est ce verset 13, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez ce traitement qui supprime le système immunitaire, on fait mourir le moi, on fait mourir la chair, et du coup c'est l'esprit qui peut vivre. Alors, mon image elle est un peu vaseuse avec le traitement, hein, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est moi je disparais et lui il peut vivre. Et ça peut paraître étrange parce que le titre de mon message c'était « Est-ce que je suis confortable avec Jésus ?» Mais en fait je suis confortable avec Jésus quand moi je disparais et que j'ai pas d'attente. On revient à ça. Alors c'est aussi ce que Jésus a dit à Nicodème en Jean 3. Il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau. Il n'y a pas de transformation possible, c'est la nouvelle naissance, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est tout l'argumentaire aussi qu'on lit dans Galates. Alors on ne va pas lire tout l'épître, hein, sinon on ne s'en sortira pas. Je vous lis juste quelques versets ciblés. C'est l'argumentaire de Paul à l'église de Galates. Il dit pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc là, ce qui est sûr dans la chair persécute ce qui est dans l'esprit. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc il dit voilà, il y a cette limite entre la chair et l'esprit, et le Seigneur il doit nous remplir tout. Il ne faut pas laisser la chair ressortir et se réactiver. Elle est morte et il faut la maintenir au sol et morte. Elle ne doit pas reprendre sa vigueur. Il dit Galates 5, verset 16 aussi, je dis donc marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et Paul y cite ensuite le fruit de la chair et le fruit de l'esprit pour montrer qu'ils sont complètement opposés. Ils portent tous les deux des fruits complètement différents. Et on sait aussi qu'un bon arbre porte du bon fruit. On ne trouve pas des raisins sur des épines, nous dit un autre verset, ou des figues sur des chardons. Paul y continue avec les Galates, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » On dit que la première solution, quelque part, c'est de crucifier la chair. C'est-à-dire, voilà, c'est mort, Seigneur, je t'abandonne ma vie, je te la donne en entier, et je veux que ça soit toi qui vives en moi. Et c'est comme ça que je peux être à l'aise avec Jésus, parce que moi j'ai disparu, lui il a pris toute la place et il n'y a plus aucun conflit dans ma vie. Alors bien sûr, moi je suis incapable de faire ça. On n'est pas capable nous-mêmes de dire bah ouais je vais me mettre à mort moi-même, il n'y a pas de mécanisme physique, je veux dire. On ne peut pas s'auto-flageller, on n'est pas là pour ça. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre dans nos vies, qui fait cette première œuvre. En fait, c'est lui le grand médecin qui applique le traitement initial. Et on voit dans les évangiles, puisqu'on a... Non, pas dans les évangiles. J'ai perdu où? Je ne l'ai pas noté. Qui remplace, c'est dit à plusieurs endroits, il remplace là notre cœur de pierre par un cœur de chair. Vous voyez qu'on en arrive à l'image tout à l'heure de la greffe. Il est obligé de mettre sa nouvelle nature en nous et de mettre quelque chose de complètement nouveau. Il nous fait une greffe et après, bah, il faut maintenir un traitement qui fait que la chair reste sans force, en fait. Et ce traitement, bah, c'est l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il faut continuer à nourrir tout ce qui vient de l'esprit pour faire mourir le reste à côté. J'avais une chanson en tête, mais elle est en anglais, je ne vais pas faire de la traduction en live comme ça. Mais c'était j'ai deux personnes en moi et voilà, celui que je vais nourrir va vivre, celui que je vais. Starve. Celui que je vais priver de nourriture, ouais, hein, que je vais abandonner, et ben lui, il va mourir. Donc on a ce choix-là dans nos vies, quelque part. Et je dis bien nous, hein, parce que tout ce que je dis, c'est aussi pour moi. Hein. Nous, on apprend aussi avec cette question de chauffage, on prend les leçons avant et on vous les partage après. Mais voilà, il y a ce choix de qui je nourris dans ma vie, quelle partie de moi je nourris. Et en fonction de ça, bah, je sais laquelle va grandir, laquelle va s'épanouir et laquelle va conditionner ma vie. Alors je vous ai dit, ça c'est une œuvre initiale, une première œuvre. Et j'étais content parce que Emmanuel, quand il est venu tout à l'heure, il a parlé de la suite. et on en parle souvent quand il fait les études bibliques, Paul y dit ici, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est-à-dire que si nous vivons par l'esprit, ça c'est l'œuvre du départ, Dieu il nous transforme, il nous donne cette nouvelle nature, et après on marche selon l'esprit. C'est-à-dire que c'est la sanctification dont on parle souvent, où on maintient ces conditions-là et on continue la marche en fait. Il ne s'agit pas juste d'être transformé une fois et puis après la nature elle va vers la mort de toute façon, vers la désorganisation. Donc si on laisse les choses comme ça, ça va mourir. Donc nous il faut continuer de bénéficier de ce que Jésus a fait dans nos vies et les seuls moyens qu'on ait, c'est ça, la parole, et c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il n'y a pas 50 possibilités en fait pour nourrir cette nouvelle nature. Dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3, « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Vous voyez qu'il faut rejeter toute une partie. Finalement, c'est presque Jésus qui a une réaction allergique en nous par rapport au reste, qui le rejette. Et on doit désirer le lait spirituel et pur, tout ce qui nous permet de grandir avec lui. Alors dans les exemples de réactions allergiques, je vais peut-être pas m'éterniser dessus parce que vous avez compris le principe, hein, mais j'avais noté qu'il y avait les pharisiens à l'époque de Jésus. Eux, ils ont une réaction allergique par rapport à Jésus. Alors c'était brutal aussi, hein, d'ailleurs, ils ont voulu le tuer. Vous voyez qu'il y a inimitié entre la chair et l'esprit. C'est soit l'esprit, il met à mort la chair, soit c'est la chair qui mettra à mort tout ce qui vient de Jésus et qui le refusera. Il n'y a pas de compatibilité entre les deux. Donc les pharisiens, ils ont rejeté Jésus. Et pourquoi ? À cause de ce qu'il a dit en Jean 15 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit « Je ne suis pas du monde, ils me haïssent parce que je ne suis pas du milieu d'eux, je ne suis pas de la même nature qu'eux. » Et ça va vous arriver de la même manière, vous n'êtes pas de la même nature qu'eux, donc vous serez haïs. Alors l'autre exemple aussi, dont j'avais parlé une fois, c'est les habitants du pays des Gérazéniens. Ça c'est ceux dont le démon a été guéri. Vous savez, Jésus il sort de la barque, et il va croiser l'homme qui était possédé de démons, qui vivait dans les sépulcres, et donc Jésus le guérit. Et la réaction de ces gens, c'est ils vinrent prier Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Il est monté dans la barque et il est parti. Donc il y a eu là aussi cette incompatibilité. Alors, quelque part, c'est probablement pas la guérison du démoniaque qui a posé problème, hein. Il a guéri quelqu'un, c'est très bien, je vois pas ce qu'on peut trouver de mal à ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ils réagissent comme ça ? Et ils réagissent comme ça, probablement à cause plus du troupeau, puisque c'est mentionné avant, le troupeau de cochons qui les démons rentrent dedans et précipitent le troupeau dans la mer. Et ils ont dû se dire, Jésus, il est incompatible avec les troupeaux de cochons. Il y a quelque chose, je peux pas, c'est soit les cochons, soit Jésus. Eux, ils ont fait le choix, ils ont dit, on garde les cochons et on vire Jésus. Choix malheureux, hein, ça nous fait sourire forcément de la manière dont je le dis, mais c'est un choix malheureux parce que ils ont refusé l'offre du salut qui était là et ils ont préféré quelque chose qui, des cochons quoi, hein, dans la Bible, c'est quand même pas glorieux. Nous on a l'idée des jolis petits cochons roses, tout mignons, tout ça, mais c'est des animaux qui étaient impurs, qui étaient rejetés par Dieu, dans le système lévitique, et puis c'est des animaux qui sont jamais sales. Ils trimballaient des maladies avec eux aussi, c'est aussi pour ça qu'ils sont dans les animaux impurs. Donc voilà, ils ont choisi ça plutôt que Jésus. Et je me suis dit, ça nous montre le prix à payer en fait. À un moment donné, si on veut garder, on veut être confortable avec Jésus dans nos vies, il y a un prix à payer qui est de tout donner, y compris nos cochons qui sont sales et qui sont impurs. Et pourtant, en tant qu'homme, bien souvent, on les garde parce que ils sont mignons, finalement c'est pas si terrible que ça, puis c'était l'Ancien Testament, hein, après, hein, c'est plus pareil dans le Nouveau. Donc on trouve des excuses et on donne pas tout à Jésus. Donc on laisse une petite place, et cette petite place, le diable il l'exploite après. Et tout ce qu'il va faire, c'est essayer d'étirer l'espace et de prendre plus de place pour que Jésus il en prenne de moins en moins. Donc, je dis pas qu'on a tous des cochons chez nous, hein, mais d'une manière imagée, on a des choses auxquelles on tient plus qu'à Jésus. Et donc, il nous demande de faire un choix à un moment donné. Alors, ce moment-là, c'est pas toujours maintenant, là, tout de suite. Mais quand on a encore la possibilité de faire ce choix, faut le faire, faut pas attendre. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est voilà, je veux être confortable avec Jésus, je veux être bien avec lui. Il n'y a pas de raison de... Bah, sinon, il ne faut pas l'accepter en fait, mais on ne peut pas être entre les deux. C'est soit on est bien avec lui, soit on le rejette en fait. On peut pas être en version intermédiaire. Et du coup, il y a un prix à payer. Et ça, c'est ce que dit Jésus en Luc 14. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Eh bien, tout ce qu'il possède, et on a vu même à sa propre vie. Et ce coup, il est clair dès le début, en fait. Le message biblique, il est clair, c'est abandonne ta vie, tu lui donnes, et il est maître et seigneur, il gère comme il l'entend. Et donc là, Jésus nous dit, voilà, l'idée, c'est de comprendre ce coup, et quand on est d'accord avec ça, eh ben on y va et c'est tout, quoi. On assume quelque part. Mais il ne faut pas aller avec Jésus et se dire, ben voilà, je vais lui laisser une certaine mesure parce que Jésus, bah, c'est une bonne philosophie quand même, hein, c'est des bonnes choses. Mais voilà, il y a des limites, hein. Il y a des limites. On entend ça des fois dans notre famille. Il y a des limites. Enfin, j'entends ça dans ma famille, pardon. Il y a des limites aussi. Enfin, faut pas que ça prenne toute ta vie non plus. Voilà. Donc, bah, en fait, si. Malheureusement, il n'y a pas de limite. La limite, c'est tout au bout quand moi j'ai disparu. Donc le coup peut sembler grand, mais en fait, il n'y a pas de perte pour nous, parce que tout ce qu'on possède, c'est rien en fait. Et on bloque avec ça, on se dit, bah ouais, mais je dois libérer ça, donner ça à Jésus, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'on gagne à la place, et qu'en fait, on ne perd rien, on perd des choses qui n'ont pas de valeur. On revient à cette histoire de cochon, hein. Ils ont préféré garder des cochons que Jésus. Donc je reviens sur ma question de tout à l'heure, quelle est ma réaction face à Jésus? Est-ce que quand il commence à vouloir changer les choses, je commence à me dire, oh là là, Jésus, doucement, hein, quand même, enfin, voilà, laisse-moi aussi une marge de manœuvre, un peu de liberté dans ma vie. Est-ce que ma vie de chrétien, elle va bien, ou est-ce que c'est la galère? Je pense à ça quand dans cette notion de confort. Si dans la vie, c'est ouais, bah, j'essaye de lire, j'essaye de prier, mais bon, c'est pas facile, hein. Bah, donc on n'est pas confortable avec Jésus. Quand je suis dans cet état d'esprit-là, je ne peux pas appeler ça un confort. Une maison confortable, c'est une maison bien chauffée. Et voilà, je suis allé voir Marie-Jeanne hier, voilà, je vais prendre cet exemple-là. Maison confortable, on s'installe, et puis bah, 3 heures après, on se dit, bon, il va falloir que j'y aille hein, quand même. Et on n'a pas envie de décoller parce qu'on est bien. On est bien parce qu'il fait chaud, parce qu'on est confortable, parce qu'on est en bonne compagnie, parce que, voilà, on est juste bien. Et on devrait être comme ça avec Jésus. Juste être avec lui bien et pas se poser de questions, dire bon, ah ouais, encore 10 minutes à prier, bon allez, je fais encore 10 minutes. Hein. Mais là, avec Marie-Jeanne, le temps il passait, et puis bon, voilà, après c'est compliqué, et il faut expliquer à la police nationale quand on rentre après 18 h. Donc voilà, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? C'était toute l'idée de ma réflexion. Est-ce que vraiment je suis bien avec lui? Alors je dis, j'ai insisté là fort sur la notion de est-ce que moi je suis bien avec lui? Mais en fait, les deux sont liés. Est-ce que lui, il est bien dans ma vie? Alors Pascal en a parlé un petit peu. Hein. Jésus, quand il vient, il veut récupérer aussi une maison propre, une maison où c'est rangé, une maison où il y a de la lumière, une maison où il fait chaud. Enfin, on peut mettre ces critères-là. Hein. Je sais bien que c'est matériel, c'est physique, mais il y a cette idée-là avec Jésus. Il veut une maison qui soit sainte, qui soit pure, qui soit agréable pour lui. Et si je chasse le diable et ses démons, il faut que Jésus y prenne toute la place. Parce que ça, c'est aussi un verset où Jésus il nous dit, s'il y a un démon qui sort, il revient, il voit la maison qui est balayée, qui est ornée, qui est décorée, mais qui est vide. Et bien, il revient avec ses copains et ils sont encore plus nombreux qu'avant. Et la situation de cet homme, elle est encore pire qu'avant. Donc il faut surtout pas dire voilà, je fais du ménage et puis voilà, ma maison elle est belle. Non, il y a forcément quelqu'un qui va l'occuper. Et si c'est moi qui l'occupe, c'est le diable qui l'occupe. Ça, c'est il y a pas de raison. C'est ou le diable ou Jésus. Moi, en fait, j'ai pas vraiment ma place dans là-dedans. Je vais terminer avec ça. Car ma chair est vraiment une nourriture, c'est Jésus qui dit ça, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. On a parlé tout à l'heure de se faire transplanter le cœur, mais en fait c'est tout le corps, c'est toute ma personne qui doit être renouvelée, qui doit être transplantée pour récupérer la vie de Jésus et le corps de Jésus. Donc on verra une fois prochaine l'aspect inverse. Hein. Je vous dis Jésus qui est bien avec moi aussi parce que c'est lié en fait. Je ne peux pas être confortable dans ma vie avec Jésus si lui n'est pas confortable dans ma vie. Voilà, forcément c'est lié, on ne peut pas les dissocier. Donc je vous laisse avec cette question-là. L'idée c'est celle de 2 Corinthiens 13. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc je vous laisse cette question-là et je vais... Voilà, j'avais quand même à cœur le dernier verset. J'ai du mal à m'arrêter aussi. 1 Roi 18, verset 1. Élie s'approche de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui a rien répondu. Donc nous, il ne faut pas qu'on reste sans réponse. Il faut qu'on réponde. Et qu'on réponde oui à la bonne personne. Donc, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci de ce que tu travailles nos cœurs avec ces questions de confort, de chauffage. Et Seigneur, nous voulons, comme dit dans l'Apocalypse, ouvrir la porte parce que tu tapes à la porte et tu veux rentrer, tu veux dîner avec nous, rester avec nous, Seigneur. Et tu ne peux pas rester dans n'importe quelle maison. Et Seigneur, ton objectif, c'est ta gloire, bien sûr, mais c'est aussi que nous soyons heureux, Seigneur, parce que quand on est heureux, c'est pour ta gloire. Et Seigneur, merci de ce que tu veux, notre confort dans la vie. Tu veux pas qu'on vive des vies malheureuses à être tiraillés des deux côtés. Mais Seigneur, tu veux juste qu'on soit bien avec toi, dans une communion comme celle que tu avais avec Adam et Ève au tout début. Et Seigneur, fais cette œuvre dans nos cœurs. Nous te prions de nous faire cette transplantation générale, de mettre ta vie à la place de la nôtre. Et Seigneur, aide-nous après à marcher dans cette voie de sanctification, de faire mourir nos propres envies, notre propre corps, et de te laisser vivre. Seigneur, ça paraît violent, ça paraît dur, mais en fait, c'est juste te laisser vivre, et c'est toi qui fais tout le reste dans nos vies. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es là pour faire cette œuvre, parce que nous en sommes complètement incapables. Merci, Seigneur. Amen.